Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des publications d'histoire, actualité des manifestations d'histoire. Pour commencer, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir avec Valérie Hanin, directrice de la rédaction de notre partenaire, le magazine L'Histoire, le professeur émérite au Collège de France, qui est Pierre Briand, qui est au cœur du dossier de l'histoire de ce mois-ci sur la Perse du roi des rois. Nous allons avec lui décaper quelques idées reçues sur cet empire monde qu'il préfère d'ailleurs qualifier d'achéménide. Puis Catherine Decopé reviendra pour une nouvelle chronique La Fabrique de l'Autre et elle analysera l'évolution d'un mot depuis quelques temps, le mot urgentiste qui est présent dans l'actualité ces derniers jours. Enfin, Marilyn Crivello, professeure d'histoire à l'université Aix-Marseille, viendra nous présenter une nouvelle manifestation sur les sciences de la société et les arts dans la cité, dont le temps fort se tiendra à Marseille en fin de semaine prochaine, le festival du jeu de loi. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Nous nous retrouvons donc pour notre séquence mensuelle avec notre partenaire, le magazine L'Histoire, dont vous dirigez la rédaction, et qui titre ce mois-ci « Aux origines mythiques de l'Iran, la Perse du roi des rois ». Et nous avons pour invité Pierre Briand, professeur émérite au Collège de France, grand spécialiste justement des achéménides et de cette région. Et il va nous expliquer effectivement comment aujourd'hui on peut lire cette histoire de façon très nouvelle depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années. Cette histoire a été profondément renouvelée, Valérie Hanin.
Et oui, profondément renouvelée, vous avez raison Emmanuel, car longtemps l'Empire perse a été un empire presque invisible. S'il était rentré dans l'histoire, c'est-à-dire dans notre histoire occidentale, c'était par les sources grecques. Hérodote d'abord, un génial historien voyageur qui était né à Halicarnasse, c'est-à-dire dans une région soumise à l'Empire perse, mais dont il nous a laissé quelques superbes et précieuses descriptions. Ou Xénophon, qui est tout à fait grec, mercenaire, engagé dans la guerre de succession aux côtés de Cyrus le Jeune. C'est-à-dire, au bout du compte, des sources indirectes. L'empire du roi des rois restait pour les historiens un monde endormi, oui, une force hostile, hein, et que vous avez profondément renouvelé, Pierre Briand, en suivant les traces des chercheurs de Chicago, de l'Institut Oriental Institute de Chicago, et vous avez décidé, il y a presque 50 ans, d'étudier cet empire pour lui-même. Et là se pose la question des sources, car il n'y avait pas tant de sources, c'est un empire immense où on parle une trentaine de langues et qui au fond regroupe évidemment des espaces extrêmement différents. Alors Pierre Briand, vous veniez vous-même de l'histoire grecque, comment est-ce que vous êtes passé à l'histoire de l'empire perse et quelles sources avez-vous utilisées ?
Merci pour cette question, alors je vous réponds très, très simplement. Je suis passé vers l'histoire achéménide simplement parce que j'ai commencé par travailler sur Alexandre et les successeurs d'Alexandre et que je me suis trouvé aux prises avec une question qui était dans l'air un peu partout d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre? Quelles sont les transformations éventuelles qui se sont déroulées? Et pour répondre à la question de savoir ce qui s'est passé dans une phase B, je me suis dit qu'il était bon de savoir ce qui s'est passé dans la phase A, c'est-à-dire l'histoire achéménide. Et là, je me suis trouvé un peu coincé, car je n'ai pas trouvé vraiment de réponse à la question. La question, c'était, au fond, quel était l'état de l'Empire achéménide lorsqu'Alexandre y arrive, donc sous le règne de Darius III. Et donc, j'ai commencé peu à peu à tracer mon sillon, mais d'une façon assez lente, malgré tout, parce qu'il était très difficile de se mettre au courant, de se familiariser avec des dossiers très, très compliqués. Alors, les sources, il se trouve que lorsque j'ai commencé à travailler, disons au début des années 70, il y avait tout de même beaucoup de choses qui étaient déjà publiées, le problème étant de se familiariser avec elles. Et à ce moment-là, d'ailleurs, en plus, il y avait une nouvelle source qui arrivait sur le marché, si je puis dire, sur le marché cognitif, si je puis employer cette expression, et qui ce sont les résultats des fouilles de l'équipe américaine de Chicago à Persepolis, qui ont ouvert en 1931, avec l'accord de, bien sûr, du gouvernement iranien. Et très vite, deux ans après, en 1933, ont été découvertes une énorme quantité de tablettes d'argile, enfin deux quantités de tablettes d'argile, une dans les fortifications de la ville, l'autre dans un bâtiment appelé le Trésor. Et c'était plusieurs milliers de tablettes qui étaient écrites en cunéiforme élamite. Et un accord a été trouvé avec Chicago, donc le gouvernement iranien a accepté qu'elle soit envoyée à Chicago, du moins le lot des fortifications. Le lot de tablettes du trésor a été envoyé à Téhéran, mais une partie, une cinquantaine, a été envoyée à Chicago. Et là, une équipe s'est mise en place à Chicago, nous sommes en 1939, et une équipe de gens qui travaillaient déjà sur la langue élamite, hein, qui était connue par d'autres sources. Et peu à peu, donc, on a commencé à entrevoir ce qu'il y avait dans ces tablettes. Puisque la première synthèse sur l'Empire Achéménide est parue en 1948 à Chicago, sous le nom d'un professeur de Chicago qui était mort en 1945, qui m'avait laissé un manuscrit qui a été mis en place et publié, qui s'appelle Olmsted. Et à travers Olmsted, on avait déjà une petite lueur sur ce que c'était que ces tablettes. Et alors, on les a appris peu à peu. En 1948, un premier lot a été publié par George Cameron, qui porte sur les tablettes des trésors, qui portaient des lumières complètement nouvelles. Alors, on avait des éléments par les archéologues sur ce qu'on découvrait de Persépolis en fouillant, en enlevant après 7 ou 8 mètres de terre. On a découvert tout ce qui était les reliefs, de nouvelles inscriptions, etc. Mais ces tablettes trésors, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles apportent des documentations sur la manière dont on travaillait dans les chantiers. Les tablettes de Persépolis, en général, d'une manière globale, on peut dire qu'est-ce que c'est ? C'est on distribue des matières premières ou de la nourriture, ou parfois sous forme d'argent pesé, aux travailleurs. Ces travailleurs qui ont été requis dans tout l'Empire travaillent sur les chantiers de Persépolis par équipe. Ils sont désignés par leur ethnique. Ils sont égyptiens, ils sont sardiens, ils sont bactriens, ce que vous voulez. Ils sont désignés par le nom du chef d'équipe. Ils sont désignés aussi par le nom de la personne qui est chargée de distribuer les rations alimentaires. Ils sont distingués aussi par le fait qu'ils vont travailler sur tel ou tel. Ils sont graveurs sur bois, graveurs sur pierre, etc. Ils sont chargés de telle ou telle partie. Et donc, on va entrer dans la vie quotidienne par la porte dérobée, mais la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils sont payés, qui sont ces travailleurs, qui s'en occupent, quelle est l'administration qui est en charge, d'où viennent le blé, l'orge, le vin, l'eau, pas l'eau, mais la bière, etc. Et donc, on entre directement au cœur de la machinerie administrative achéménide par cette tablette de Persépolis et également par les tablettes des fortifications.
Ça veut donc dire que le travail de l'historien que vous êtes a été augmenté, pourrait-on dire, par toutes ces découvertes archéologiques qui se sont multipliées. Jean-Claude Gardin en Bactriane et d'autres ont permis justement de se faire une idée par ces découvertes archéologiques de l'ampleur de cet empire et de la manière de l'administrer.
Absolument. J'ai découvert l'archéologie. Alors c'est un peu surprenant de dire pour un historien, mais moi je n'ai pas été formé à l'archéologie quand j'étais historien, comme beaucoup d'historiens d'ailleurs. J'ai découvert l'archéologie vraiment lorsque Jean-Claude Gardin, vous parliez, a fait appel à moi en 79, il avait lu ce que j'avais écrit sur un certain nombre de choses et il m'avait dit, mais nous travaillons en Bactriane, donc en Afghanistan, nous avons mis au jour des canaux d'irrigation, dont certains remontent à l'époque achéménide, mais on n'en réussit pas à faire. Vous voyez, les archéologues sont très impatients, et c'est normal de faire le lien avec des sources écrites qui pourraient contribuer à interpréter leur découverte. Il m'a dit, bon, écoutez, après on citoyait, peu importe, il m'a dit ce qui serait intéressant, c'est de faire le rassemblement des textes littéraires, ou textes écrits, pardon, des documents écrits qui portent sur la Bactriane. J'ai commencé à faire et ensuite j'ai découvert l'importance de l'archéologie. Je n'ai cessé d'ailleurs de m'intéresser de très près à l'archéologie. J'ai noué des relations de collaboration, en particulier avec Rémi Bouchala, qui intervient dans le dossier de l'histoire, qui a travaillé longtemps sur Suze, qui a longtemps travaillé sur d'autres sites, en particulier Pasargad en Iran.
Absolument.
Dans le Fars, et j'ai d'ailleurs été plusieurs fois avec lui découvrir ces... Et donc, on a, à travers les nouvelles sources écrites, alors, les tablettes de Persépolis, mais on peut reciter beaucoup d'autres, hein, les documents araméens, l'araméen étant la langue internationale, la langue des chanceliers achéménides, l'araméen, on a découvert des textes araméens dans toutes les régions, l'Égypte, bien sûr, grâce aux documents écrits par les personnes de la garnison de Sienne éléphantine à la hauteur de la première cataracte du Nil, ou également une correspondante du satrape. Et puis on a découvert plus récemment, alors nous sommes là vers 2000-2001, des fouilles illégales, il faut le dire, des documents araméens fantastiques, justement, qui provenaient de Bactriane, Et j'avais annoncé, moi, lorsque j'avais écrit à la demande de Gardin un bouquin, et j'avais annoncé, un jour ou l'autre, forcément, un jour ou l'autre, on pourrait découvrir des archives araméennes de Satrape de Bactriane. Ça arrive qu'une fois dans sa vie, ça arrive presque jamais.
D'avoir une, voilà. De faire une prédiction et qu'elle soit...
voilà. Pas une prédiction, c'est une prévision fondée quand même sur des raisonnements et des documents déjà existants.
Valériane.
Mais alors, comment ces milliers de tablettes ont-elles révolutionné complètement la vision de l'Empire perse, plutôt achéménide? C'est-à-dire qu'on manquait de quelque chose. On n'avait pas, pour cet empire-là, des archives royales. On n'a pas de chroniques, on n'a pas de récits glorieux des hauts faits de Cyrus, de Cambyse, de Darius et de sa capitale, de Persépolis, ou de la prise de Babylone. Donc, ça manquait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'imagination s'y est moins accrochée qu'à d'autres. Mais du coup, cet empire, on le connaissait mal. Alors, comment ces tablettes nous permettent-elles d'entrer? Vous dites qu'on sait tout hein, dans ce dossier de l'histoire. Vous nous dites qu'on sait vraiment tout. Quelle image ça nous donne de cet empire-là immense? Un empire bien administré?
Je pense que ça a transformé profondément la vision qu'on avait de l'empire achéménide, traditionnellement, on imaginait, avant qu'il y ait des recherches archéologiques et stylistiques très, très, très pointues, on imaginait que les Perses étaient arrivés comme ça, comme un peuple nomade, qui ne connaissait rien, quoi. Et qui s'installait là, qui a conquis, parce que les nomades, par définition, conquèrent les sédentaires, comme c'est bien connu. Mais qu'ils n'avaient aucune tradition de leur fait, du point de vue administratif. On sait maintenant, en fait, que, ils sont arrivés beaucoup plus tôt, qu'il y a eu des rapports extrêmement étroits avec les Élamites. Dont le royaume était centré sur Suse et sur la Perse, d'ailleurs, sur ce qui va devenir la Perse. Mais ce que ça apportait comme renseignement fondamental et premier, c'était de Persépolis, c'est que l'empire achéménide n'est pas un empire nomade. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs exactement. Mais on fait qu'emprunter ce qui existait. Les Perses ont mis au point un système qui, certes, était largement, qui avait des emprunts aux dynasties précédentes, assyriennes, babyloniennes, élamites, qu'ils ont formées. D'ailleurs, ce qu'ils montrent bien, c'est que une grande partie du vocabulaire dans les tablettes qui sont écrites en langue élamite, le vocabulaire administratif est un vocabulaire d'origine perse, de la langue perse. Et donc, on voit bien que ce sont les Perses eux-mêmes qui mettent au point cette machinerie administrative considérable. Et donc, on voit par là, et on peut le conforter avec les textes araméens, que, comme je l'ai écrit il y a très longtemps, l'Empire achéménide est un empire paperassier, c'est-à-dire fondé sur la paperasse, l'écriture.
Ce qui est formidable pour un historien.
Absolument. Mais sauf que ces papiers ont disparu pour la grande partie. Si on en a des traces à travers les textes araméens, à travers les textes archivistiques de Persépolis, mais malgré tout, on voit très bien que c'est un empire minutieusement administré. Alors, je prends un exemple. Les routes. Système routier. Quand on parle de l'Empire achéménide, en général, vous voyez une train très rouge qui va de Sardes, donc sur la côte méditerranéenne, jusqu'à Suse, au sud de Mésopotamie, et c'est intitulé La Voie Royale. C'est tiré d'Hérodote. Hérodote, dans les conditions, peu importe, décrit cette voie de manière... Et donc, on disait, il y avait une grande voie qui allait de Sardes à Suse. D'ailleurs, Suse était la capitale de l'Empire, ce qui est complètement faux, mais peu importe. Ce que nous apprennent les tablettes, il y a une série dans les tablettes de Persépolis des fortifications que l'éditeur américain a appelé la série Q, les rations de voyage. Puis il y en a une autre d'ailleurs qui est la ration de voyage pour les animaux, peu importe. Qu'est-ce que c'est? On nous dit un tel qui est parti, mettons, de Sardes, Sardes si vous voulez, ou de Bactre, peu importe, va vers Persépolis, là, et il a une autorisation qui est donnée par le satrape dont il est parti, donc il lui a donné l'ordre. On donne le nom du chef de la caravane, on donne le nombre et la qualité de ceux qui vont voyager, et on donne les rations alimentaires que chacun doit toucher en fonction de son grade, si je peux dire, lorsqu'on arrive à la station, une des stations. Imaginez-vous que le type qui va aller de Sardes à Suse ou à Persépolis, qui ensuite va repartir vers Bactre, le nombre de centaines de stations qu'il va faire chaque soir. Car c'est pour une journée. Hein. Chaque soir, on arrive à une station. Le type arrive avec un document qui n'est pas le document qu'on a sur l'argile, qui est un document sur parchemin ou sur papyrus. Il va voir le chef de la station. Ensuite, il va voir le chef des magasins. Un qui est chargé de distribution de l'orge, l'autre de distribution de vin, l'autre de distribution de fourrage pour les animaux. Et voilà, j'ai un ordre, vous me donnez tout ça. Alors après, le type va écrire va écrire, lui, il va faire, donner un reçu. Il va faire ses comptes à la fin d'année. Des comptes à la fin d'année vont être envoyés à Persépolis. Et donc tout va être contrôlé depuis Persépolis et chacun pose son sceau pour authentifier le document. Et à la fin, parmi les tablettes de Persépolis, il y en a une catégorie qu'on appelle, que l'éditeur appelait journals, journaux si vous voulez, qui sont des récapitulatifs annuels. Et on dit, voilà, ce qui est à telle station de ceci.
Donc, il y a du quotidien, il y a du mensuel,
mensuel de l'annuel. Et vous avez une vérification des comptes. Les comptables sont une des catégories les plus souvent citées dans cette documentation. Et parfois, on dit, ah, mais un tel n'a pas donné, il y a des fraudeurs, etc. Bon. Alors, c'est tout ça. On voit très bien comment fonctionne l'Empire à travers ce simple exemple.
Valériana.
Donc, on sait énormément de choses, mais quand même, pendant 300 ans, c'est-à-dire, on parle de quelque chose, enfin, c'était il y a 2500 ans.
Oui.
Et comment administrer un si immense empire, malgré tout? Cette bureaucratie n'explique pas tout. Vous nous expliquez très bien, Pierre Briand, comment, quel est peut-être le secret de durée de cet empire, cette entente avec les élites locales, parce que quand même, toutes ces provinces ne se révoltent pas.
Non, mais ça, c'est fondamental. Les Perses ont très vite compris que, voilà, les grands rois ont très vite compris que l'administration ou le contrôle d'un territoire aussi vaste et surtout aussi divers. Imaginez-vous le nombre de langues que l'on parle, le nombre de panthéons, etc. Chacun a sa langue, son panthéon, ses traditions locales. Donc il n'est pas question de persianiser l'Empire. C'est pour ça que je refuse le terme Empire perse. L'Égypte reste l'Égypte, la Babylonie reste la Babylonie. Et on fait accord avec les élites locales qu'on laisse en place, du moins à certains niveaux. On se greffe sur ces pays d'une administration qui est chargée de maintien de l'ordre, de la levée des tribus, de la paix, etc., de l'état du commerce, etc. Donc vous avez dans chaque satrapie, chaque gouvernement, cette administration extrêmement pointueuse, mais par ailleurs, une cité grecque, prenons une cité grecque qui doit payer le tribut, c'est grec, vous voyez un décret sur une pierre de la cité grecque en question, vous ne voyez pas l'apparition, l'empire n'apparaît pas. Elle va continuer à prendre ses décrets comme le prenait par ailleurs. Mais l'administration se voit à travers cette correspondance administrative. Un autre exemple pour terminer là-dessus. On a découvert il y a une vingtaine d'années un papyrus d'Éléphantine en Égypte. Et les chercheurs israéliens ont découvert que derrière le texte, il y avait un autre texte, hein. Et ce texte est un relevé des douanes d'un poste de douane en Égypte, qui est daté. On voit le nom, les navires qui arrivent dans ce poste, le nom des capitaines, la nature de la cargaison, les taxes qu'ils doivent payer. On sait à quelle date ils arrivent, à quelle heure ils repartent. On sait même ce qu'ils remportent comme cargaison, où ils vont, d'où ils viennent. Donc, vous voyez, ça, c'est, et ce genre de document qui a été retrouvé par hasard ou probablement par le talent de ces épigraphistes, ou paléographes, exactement, il faut s'imaginer que c'est un peu par hasard qu'on l'a trouvé, qu'il y en avait comme ça partout dans tout l'Empire. Donc, vous avez effectivement cette alliance avec les populations locales qui se manifeste aussi par le fait que la royauté est multiface. C'est-à-dire que, évidemment, le roi, il le dit bien dans ses inscriptions, le grand roi, il est perse, fils de perse, roi en Perse. Il demande qu'Abraham Mazda protège ce pays de tous les maux possibles et imaginables. Donc, il est d'abord roi en Perse. Et lorsqu'il décrit les conquêtes, il dit, voilà les pays que le Perse a pris. Mais en même temps, prenons le cas de l'Égypte, qui est bien connu grâce à des textes égyptiens, mais grâce aussi aux textes qui sont gravés sur une statue de Darius qui a été découverte à Suse en 72, mais qui a été faite en Égypte. Le grand roi est représenté en majesté avec la robe royale, l'épée aux côtés, etc. Il y a des inscriptions en cunéiforme qui le désignent comme étant, et où il dit bien, cette statue a été faite en Égypte pour que chacun sache que le Perse a conquis au loin l'Égypte, etc. Mais en même temps, la base, il y a des inscriptions hiéroglyphiques, et la base de la statue est ornée de chacun des peuples de l'Empire figurés iconographiquement, et qui est désigné chacun par son nom qui est inscrit en hiéroglyphique dans un cartouche à l'égyptienne. Et donc on voit très bien que le grand roi est à la fois grand roi, il est roi des mains, et en Égypte il est pharaon. Il est pharaon reconnu comme tel par les élites locales.
Donc il peut être à la fois le grand roi et en même temps devenir, prendre le titre local qui lui permet aussi de gouverner place. Comment naît cet empire? Parce qu'on n'en a pas encore parlé avec vous, Pierre Briand, mais on a toujours un doute de la naissance d'un empire. On ne sait pas très bien pourquoi Cyrus est considéré comme le fondateur de cet empire et sur quoi il fait fond. Il fait fond sur des royaumes qui le précèdent, qui sont là avant. Alors il y a les royaumes, l'empire babylonien, le royaume Mède, dit-on, le royaume d'Élam, le royaume pharaonique. Et finalement, c'est cet assemblage qui va finir par faire cet empire-monde que vous décrivez, Pierre Briand.
Alors, pourquoi et comment Cyrus a conquis cet empire, je crois que c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre.
Alors, je pense que si vous ne savez pas, personne ne sait.
Si vous me demandez pourquoi Alexandre a conquis l'empire de Darius III, je vous dirais pareil. On peut émettre des hypothèses. Bon, d'abord, la première raison, c'est que pourquoi d'abord il a eu cette idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Disons que tout de même les Perses, ceux qu'on appelle les Perses, qui sont en fait le résultat de mélange ethnique entre des Iraniens et des Élamites, etc. Bon, mettons, ceux qui vont s'appeler des Perses étaient en contact depuis très longtemps avec le royaume assyrien, le royaume élamite. Ils avaient entendu parler certainement de l'Égypte, entendu parler des Mèdes qui étaient leurs cousins culturellement, entendu parler du royaume lydien, tout ça. Il y a quand même des circulations d'informations.
Bien sûr.
Ils ne sont pas quand même. Bon, maintenant, à partir d'un moment, ils ont conquis, ils ont pris la domination sur les lames, après sur la Mède, sur les Médis, bon, la Mède, et ensuite, je ne peux simplement dire qu'à un moment donné, mais ce qu'on peut en revanche étudier, sont les conditions, pas les raisons des victoires militaires, je n'en sais rien. Bon, je ne sais pas pourquoi Alexandre a battu Darius, je ne sais pas pourquoi Cyrus a battu le dernier roi néo-babylonien, je n'en sais rien, je ne peux pas l'expliquer. Bon,
mais vous dites que c'est une conquête fulgurante, quand même, entre Cyrus et Darius.
Je ne dis pas, je constate, c'est tout. Hein. Mais je ne sais pas les raisons de la fulgurance, si ce n'est qu'il y avait une supériorité militaire et que, de toute façon, tout ça a été préparé, c'est-à-dire qu'il y avait certainement des contacts préalables avec les élites locales qui sont parallées tout d'un coup, sans qu'ils aient préalablement reçu des assurances sur leur survie.
Bien sûr. Valériane.
Vous parlez joliment des rassembleurs de terre. Mmh. Ces grands, les premiers, Cyrus, Cambyse, Darius, qui sont les rassembleurs de terre d'un empire immense et d'un empire, en effet, que vous appelez un empire monde, à cause de cette multinationalité. Je voudrais qu'on vienne un instant, s'il vous plaît, Pierre Briand, sur le fait que vous n'aimez pas, vous l'avez dit, appeler l'empire perse, parce qu'il n'est pas persianisé, et vous préférez Achéménide. Mais d'où vient ce mot Achéménide? Parce qu'après tout, c'est une invention.
Le terme Achéménide apparaît pour la première fois, pour la première fois avec Darius Ier, qui prend le pouvoir en 522 par la force, et certainement en expulsant le dernier héritier légitime qu'il va désigner lorsqu'il va parler de tout ça, lorsqu'il va désigner comme usurpateur. Et c'est lui qui crée le terme Achéménide en référence à un ancêtre
mythique
inventé.
Oui.
L'invention de la tradition. Mm-hmm. Un ancêtre inventé auquel le nom d'Achéménide. Il y a certainement eu une personne ou deux qui sont appelés Achéménès, c'est pas le problème. Et donc, dans les inscriptions, il se présente ou il explique pourquoi et comment il a le pouvoir, combien légitime est son pouvoir, il explique. Nous sommes les Achéménides, et depuis plusieurs générations, et il remonte très très haut dans le temps, nous sommes Achéménides, donc c'est une fonction, une des fondations de sa légitimation. Mmh. Le terme Achéménide lui-même était inventé par Darius, la raison pour laquelle maintenant les spécialistes, on va peut-être pas entrer dans le détail, désignent sous un autre nom la première partie de la dynastie, c'est-à-dire Cyrus et Cambyse, on désigne sous le nom de l'ancêtre de cette première dynastie qui est Tex-Pays, donc on va parler des Tex-Pays. Je préfère simplifier en appelant comme Darius tout le monde Achéménide.
Mais l'avantage, c'est que ça n'est pas un nom ethnique.
Non, c'est un nom clanique, c'est pareil.
Oui.
C'est un nom clanique. Mmh. Mais c'est-à-dire que on parle de l'empire Achéménide, on le désigne simplement par le nom de la dynastie, c'est tout.
Bien sûr.
Mais pas par une ethnie particulière.
Mais c'est pour ça aussi que vous. Enfin, c'est pour cela, non. C'est à cela que vous faites référence lorsque vous dites un jour que Alexandre est le dernier des Achéménides.
Ah,
Mon Dieu. Ce qui vous les a valu, ce qui a valu de très nombreuses discussions avec vos collègues historiens.
Qui continue d'ailleurs.
J'ai inventé ça.
En fait, vous savez, c'est terrible d'inventer une formule parce qu'après, elle est reprise,
elle est
reprise partiellement. Puis bon, bref.
Mais elle est très intéressante.
Expliquez-la. Oui. Alors, en deux mots, moi, j'avais écrit un gros article il y a 40 ans où j'essayais d'expliquer, de comprendre le passage de l'Empire Achéménide à Alexandre, au royaume hellénistique. Et donc, où je rappelais que il fallait, Alexandre n'a pas tout balayé d'un coup et n'a pas fait la table rase du passé, mais qu'il a utilisé le passé récent d'ailleurs, les cendres étaient encore chaudes, pour construire un empire qui était non pas le premier empire mondial, contrairement à ce qu'on dit toujours. Le premier empire mondial, c'est l'Empire Achéménide. Alexandre, si vous suivez son trajet, a suivi, comme un chien qui pisse tout autour de son domaine, a suivi les frontières de l'Empire et les a revivifiées à son profit. Bon. Donc l'Empire Achéménide, l'Empire d'Alexandre, sur le plan géopolitique, et la suite de l'Empire, je dis bien sur le plan géopolitique, pas plus. Hein. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé pendant les 10, 15 ans, 20 ans qui suivent la mort de Darius, si vous voulez. Et donc, j'ai essayé d'expliquer qu'en réalité, Alexandre avait bâti son empire, ce que je viens de dire. Et donc, je prenais un certain nombre d'exemples pour montrer que la rupture n'avait pas été brutale, contrairement à tout ce qu'on a dit dans une historiographie qui était une historiographie de type colonial, mais que
avec cette idée que c'était les Grecs qui avaient fondé cet empire.
C'était encore le miracle grec. Ouais. Et j'avais déjà montré antérieurement que les colonies ou les villes fondées par Alexandre n'avaient pas été fondées dans les terres vierges, parce qu'il n'aurait pas pu être fondé, mais qui avaient repris des terroirs qui étaient déjà cultivés, ne serait-ce que pour avoir accès à la main d'œuvre. Et donc j'avais dit que, en parlant si on replaçait l'histoire d'Alexandre sur la longue durée, l'histoire du Proche-Orient et du Moyen-Orient, l'Empire d'Alexandre, l'Alexandre était à la fois, et je commençais par là d'ailleurs, qu'il était le premier des rois hellénistiques, donc, je disais certes, mais sur le plan, si on le replace sur la longue durée, il est aussi le dernier des Achéménides dans la mesure où il a repris à son compte un certain nombre de structurations de l'Empire, et j'ajoute que si on comprend bien les choses, on se replace à cette époque dans la mentalité d'Alexandre. Quel autre modèle impérial aurait-il pu avoir en dehors de l'Empire Achéménide? Aucun.
Et donc c'est pour cela que vous l'avez appelé comme ça, et c'est pour ça que ça fait polémique, discussion dans le milieu académique.
Oui, parce qu'on avait oublié la première partie de la formule, qu'il était le premier des rois hellénistiques, et donc on avait dit, ah non, pas plus, bien en plus, ça heurte, et ça heurte beaucoup encore d'historiens d'Alexandre qui sont très attachés au fait que Alexandre a tout changé.
Oui, c'est ça, bien évidemment. Valériane.
Parmi les multiples mythes qui continuent de courir autour de cet empire achéménide, il y a la figure de Cyrus, dont le tombeau est encore visité. L'idée que Cyrus aurait été, c'est une histoire qui traîne encore jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'ONU, jusqu'à dans les milieux iraniens, que Cyrus aurait été le fondateur des droits de l'homme. D'où vient cette légende?
Pas seulement dans les milieux iraniens. Les milieux iraniens, il faudrait nuancer beaucoup. Non. On a frappé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis une médaille sur laquelle d'un côté il y a Cyrus, de l'autre côté il y a Trump. Parce que la figure de Cyrus a été beaucoup reprise par les présidents des États-Unis, que là, dans le cas de Trump, c'est encore autre chose. Bon, on va revenir sur Cyrus. Alors Cyrus a été d'abord une grande figure mythique ou mythifiée ou idéalisée d'abord dans la littérature grecque. Hérodote, Xénophon avec la Cyropédie. Donc c'est une personne. C'était un modèle du bon roi. Bon. Et puis, on a découvert, donc, en 1800... Pardon, excusez-moi, j'ai des dates, j'ai jamais en tête, moi.
Le 19e siècle.
1830, à peu près, ou un peu plus, je sais plus. Un cylindre d'argile à Babylone, sur lequel il y a un texte cuneiforme très intéressant, on parlait de Cyrus, ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, qui a été trouvé, et puis acquis immédiatement par le British Museum, dans lequel, donc, on voit l'entrée de Cyrus à Babylone, qui est présenté par les temples babyloniens, et on voit que Cyrus a justement favorisé les temples babyloniens alors que le précédent roi, qui était un méchant roi, les a beaucoup maltraités. Et donc, à partir de ce moment-là, on a essayé s'est répandu l'idée que de la tolérance achéménide. Alors, la tolérance achéménide, ça veut dire quoi? Les Achéménides ont été opposés aux Assyriens, les Assyriens étant extrêmement cruels, méchants, sanguinaires, matant les populations par la force, alors que les Achéménides auraient au contraire laissé faire tout le monde.
Donc, un doux commerce.
Un doux commerce de Montesquieu, oui. Et donc, voilà. Et c'est levé cette idée, qui était fondée en grande partie d'ailleurs sur l'alliance entre ce texte de Cunéiforme et les textes bibliques qui montrent qu'à l'époque de Cyrus, il n'est pas question du retour des Juifs dans le dessin de Cyrus. C'est une invention. Hein. À l'époque de Cyrus, les Judéens qui avaient été déportés à Babylone ont reçu l'ordre, la permission de revenir. Tout le monde n'est pas revenu d'ailleurs, et de reconstruire le temple de Jérusalem.
En 539, on est en 539 avant Jésus-Christ.
Vous avez raison de le préciser. Et donc, ceci a fait que une espèce de petite pelote s'est créée autour de cela. Et donc, on a opposé les méchants Assyriens aux bons Achéménides, parce que sur les reliefs assyriens, vous avez le roi qui ne cesse de combattre contre tout le monde. Relief Achéménide semble être complètement... Là, c'est la paix.
Pacifié,
il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de compas, il n'y a pas de guerre. Donc,
C'est toujours un discours du pouvoir. C'est-à-dire que discours du pouvoir pour la réalité historique.
Absolument. Nous sommes absolument d'accord. Et donc, toutes les inscriptions royales, d'ailleurs, expriment cette volonté de pacification, cette volonté. Au fond, c'est l'Empire ne serait-ce qu'une vaste collaboration de tous les peuples autour d'un projet commun. C'est les fameuses inscriptions de Suse où Darius explique qu'il a fait venir tel artisan de telle région, et on a l'impression que tout le monde est venu volontairement là participer à la construction des palais de Darius à Suse. Bon, et donc voilà comment c'est expliqué. Et donc Cyrus a été désigné comme étant le créateur des droits de l'homme. Ceci, c'est une invention de la propagande du Shah d'Iran, qui en 71 donc a envoyé sa sœur aux Nations Unies. C'était Outhand qui était à ce moment-là secrétaire général, et qui lui a remis une copie du cylindre qui est toujours dans l'immeuble des Nations Unies à New York, et en expliquant d'ailleurs ce que ça voulait dire. Donc, il a parlé de création des droits de l'homme, et donc tout ceci, les Nations Unies ont pris ça pour content, et puis on diffusait ça, et alors les fêtes de Persépolis, etc., en 72, à l'époque du Shah, n'ont fait que diffuser cette image qui ne cesse de réapparaître. J'en ai parlé dans l'histoire, souvent à propos des grandes expositions qui ont eu lieu d'abord à Téhéran, où Ahmadinejad a joué un rôle absolument surprenant, puisque il a essayé de reconstruire une identité iranienne en fusionnant l'antiquité pré-islamique et le présent islamique. Ce qui a été reproché d'ailleurs par beaucoup d'élites religieuses iraniennes à ce moment-là.
C'est d'ailleurs la grande vertu de ce dossier, donc, de l'histoire de ce mois, Valérie Hanin, que justement de délaguer, de nettoyer les légendes et de nous permettre d'approcher au plus près, pourrait-on dire, ce que l'on sait aujourd'hui grâce à l'archéologie, grâce aux textes et grâce aux travaux de Pierre Briand, entre autres, justement, sur ce qu'était justement cet empire monde. C'est la couverture, la Perse du roi des rois, de ce numéro de l'histoire de ce mois. Merci Valérie, merci à vous Pierre Briand.
Merci de votre invitation.
Libellis, conservateur, homme politique, insoumise, arctique, geek, souffri, paysan, red coast, arc, pétroleuse, souffri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet.
Bonjour Catherine de Coppet. Plusieurs années que vous êtes dans la fabrique de l'histoire pour nous parler de la fabrique de l'autre, c'est-à-dire la façon dont on désigne un autre ou une autre dans notre société, alors que la grève qui mobilise de nombreux services d'urgence dans les hôpitaux français dure depuis bientôt 3 mois, vous avez souhaité revenir pour cette chronique dans votre fabrique de l'autre au mot urgentiste.
L'émergence de ce terme urgentiste est somme toute assez récente puisqu'elle remonte aux années 90. Urgentiste, c'est comme cela qu'on désigne les médecins des services d'urgence, services qui dans leur forme actuelle existent depuis les années 60. À cette époque, il s'agit d'organiser les secours médicaux au sein des hôpitaux publics, le but étant de réguler l'accès à l'hôpital des personnes arrivant avec des pathologies aiguës et graves et de façon imprévue. Dans le même temps, en 1967, est créé SOS Médecins avant le SAMU en 1972, et la loi de 1970 va instituer le cadre de l'admission d'urgence dans les hôpitaux, de jour comme de nuit. Officiellement, les services d'urgence se doivent de recevoir, je cite, le malade ou l'accidenté qui se présente hors des heures de fonctionnement des consultations ou qui arrive sans rendez-vous à une consultation et qu'on doit examiner et traiter sans délai. En 1981, une précision sera ajoutée à la définition. Les patients seront accueillis qu'il s'agisse d'une situation d'urgence lourde ou d'une urgence ressentie. Qui sont les urgentistes présents dans ces services? Il s'agit pour leur grande majorité de médecins généralistes, suivis par les anesthésistes réanimateurs, mais aussi des spécialistes en pédiatrie, médecine interne, médecine du travail, voire santé publique.
Alors, il n'a pas fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle tout de même pour organiser des soins d'urgence. À partir de quand cette préoccupation apparaît-elle en France, Catherine?
Eh bien, si la médecine s'est institutionnalisée progressivement au XIXe siècle pour connaître l'organisation professionnelle en spécialité qu'on connaît aujourd'hui, l'histoire des urgences ou des premier secours est bien antérieur. Faisons donc un saut dans le temps pour arriver au milieu du XVIIIe siècle, une période qu'a particulièrement bien étudiée l'historienne Christelle Rabier. Si on devait trouver un équivalent pour cette époque de nos urgentistes, ce seraient les chirurgiens. C'est ainsi qu'on désignait alors le personnel médical qui opérait, saignait et pansait les plaies. Les chirurgiens étaient subordonnés aux docteurs en médecine, diplômés des universités. Or, en 1749, un arrêt du roi impose aux chirurgiens parisiens de signaler leur profession sur la porte de leur domicile et de disposer d'une salle en rez-de-chaussée pour pouvoir donner les secours nécessaires à ceux qui en auraient besoin. Et en 1783, il incombe aux mêmes chirurgiens de Paris d'assurer les secours aux noyés, une obligation qui s'inscrit dans une procédure mise au point par la ville après plusieurs expérimentations. Si vous connaissez, c'est la boîte Pia. Pour Christelle Rabier, ce qui se passe alors revient à instituer un véritable service public des premiers secours en ville en organisant leur permanence. Et ce phénomène est inséparable à l'époque de l'implication importante des dix chirurgiens dans la médecine légale et l'information judiciaire. Travaillant étroitement avec les commissaires de police, ceux-ci sont partie prenante du système de contrôle de l'ordre public.
Et à cette époque, le relais de ces chirurgiens, quand les blessés n'ont pas de quoi les payer, c'est déjà justement ce même hôpital dont on parle aujourd'hui avec vous, Catherine.
Oui, de fait, l'hôpital avant le 19e siècle n'est réservé qu'aux indigents. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette évolution vers une nécessité des premiers secours urbains concerne aussi l'hôpital au cours du 18e siècle. À Paris, c'est surtout l'Hôtel-Dieu qui est concerné. Même si la majorité des personnes accueillies ne le sont pas dans un cadre d'urgence, la plupart des nombreux employés de l'hôpital sont dédiés au traitement des urgences nuit et jour. Ces employés travaillent bénévolement, en échange du gîte et du couvert, mais aussi de formation. On les appelle les élèves, car ils n'ont pas le même statut que les chirurgiens, mais ce sont eux qui sont en première ligne pour soigner les accidentés ou les blessés.
Alors que le 19e siècle sera marqué par les progrès de la médecine en particulier, et l'amélioration du transport des blessés, c'est aussi ce même siècle, ce même 19e siècle, où médecine d'urgence et médecine de guerre vont finalement aller de pair, Catherine.
C'est un fait bien plus connu, avec notamment la création de la Croix-Rouge en 1864, fondée sur l'idée que des secours civils pouvaient prendre en charge les blessés de guerre. La guerre fonctionnera de fait à chaque fois comme un accélérateur des méthodes de la médecine d'urgence, des évolutions que l'on recense à chaque conflit au cours du XXe siècle également. En 1941, les hôpitaux qui dépendaient jusqu'alors des municipalités deviennent responsabilité de l'État et ouverts à tous. Et c'est progressivement, avec les progrès de la réanimation notamment, que s'imposera la nécessité de services d'urgence adossés à l'hôpital. Remarquons pour finir que le terme urgentiste n'apparaît que 30 ans après la création des services d'urgence, une bizarrerie qu'on peut attribuer au manque de reconnaissance de ce corps à part par l'institution médicale marquée par le règne des spécialités. Notons que ce n'est d'ailleurs qu'en 2004, après la catastrophe de la canicule de 2003, où les urgences avaient joué un très grand rôle, que la médecine générale a fait son entrée au rang des spécialités médicales et que la médecine d'urgence a fait l'objet d'un diplôme complémentaire spécifique. Alors, l'urgentiste est-il en fait un urgentologue? C'est en tout cas comme cela qu'on appelle les médecins d'urgence au Québec.
Urgentologue?
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Catherine Decopé, d'être venue pour cette dernière Fabrique de l'Autre, puisque nous terminons cette saison de la Fabrique de l'Histoire. Et puis, on peut retrouver toutes vos Fabriques de l'Autre. Il y a des pages spécifiques sur le site de France Culture, et en particulier pour celle-ci, autour du terme urgentiste. Thank you. Mambo, un extrait des danses symphoniques de West Side Story composé par Leonard Bernstein, qui est interprété ici par Katia et Marielle Labeck, et qui ont été joués, donc ce Mambo et ses danses symphoniques, le 26 mai dernier au Palais de la Bourse à Marseille, dans le cadre de ce festival Le Jeu de Loi. Bonjour Marilyn Crivello.
Bonjour Emmanuel.
Un festival un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un festival de sciences humaines et des arts dans la cité, donc dans la ville de Marseille, qui s'étale sur une longue durée. Ça a commencé il y a combien de temps déjà ?
En fait, ce festival, effectivement, a deux parties. Il a commencé le 9 mai, il se terminera le 22 juin. L'idée, c'était finalement une idée qui est pas si loin de celle de la fabrique de l'histoire. C'était de faire découvrir la fabrique des sciences humaines et sociales et des arts. Et donc, une première partie, entre le 9 mai et 18 juin, s'appelait d'entrée de jeu. Et d'entrée de jeu, c'est finalement la découverte d'un certain nombre de journées d'études, de conférences, de colloques, de performances artistiques mises à disposition du public. Et c'est un moyen d'ouvrir finalement l'université sur la ville et de permettre des échanges à partir finalement de dispositifs qui étaient déjà prévus. Et un deuxième temps, c'est celui dont on va parler tout à l'heure, c'est le temps fort, et celui-ci c'est un temps thématisé qui peut changer chaque année, où cette fois-ci il y a une véritable construction collective pour essayer de mettre ensemble des activités très diverses, artistiques ou scientifiques.
Et donc c'est le temps fort, ça sera le 19, 20 et 21, c'est ça ? Ou 22
du 19
aussi
au 22 juin.
Au 22 juin, donc la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, pour ce festival du jeu de loi. Alors on vous a invité pour parler de ce festival, aussi comme une sorte de clin d'œil. Vous avez été la première invitée de la Fabrique de l'Histoire le 6 septembre 1999, Marilyn Crivello. Vous étiez en compagnie de deux historiennes et historiens que nous aimons beaucoup, Daniel Tartakovsky et Jean-Clément Martin, pour commenter un documentaire, un reportage qui avait été composé dans le courant de l'été 1999 par Perrine Kervran, qui a été productrice à la Fabrique de l'Histoire, autour du Moyen-Âge dans la rue. Pourquoi s'habille-t-on comme au Moyen-Âge ? Pourquoi devient-on joueur dans des tournois supposés médiévaux ? C'est ce que racontait Perrine Kervran. Et vous commentiez ce reportage de Perrine Kervran, réalisé par Véronique Lamandour, en parlant déjà, c'était il y a 20 ans, du jeu.
Je trouve que finalement, ces fêtes sont certainement beaucoup plus bon enfant que toute la dimension sérieuse qu'on essaie de leur accorder. Finalement, c'est quand même la dimension festive qui est fondamentale, le jeu. Je crois que ce qui m'a frappé, c'est le plaisir de la narration de ces gens, le langage qui est employé.
Il y a un plaisir à raconter. Réinventé, de toute
façon. Un langage totalement réinventé.
Parce que là aussi, la coupure a été
dans les fabliaux,
trop...
bien sûr, oui. Mais il y a un plaisir de raconter, de s'inventer un personnage, finalement pendant 2-3 jours de changer de peau, de pouvoir rencontrer l'autre. Je crois qu'il y a quand même cet aspect-là, hein, qui est l'aspect purement ludique et qui est très fort.
La dimension ludique et de jeu, justement, dans la reconstitution historique. C'était la première émission de la Fabrique de l'Histoire en hebdomadaire à l'époque. Avec vous, Marilyn Crivello, vous avez quand même la mémoire longue. C'est la longue durée qui vous intéresse. Vous travaillez, donc, en tant qu'historienne, sur les représentations de l'histoire à la télévision, dans les spectacles historiques, la façon dont l'histoire pénètre nos vies bien, de façon bien différente. Ça sera présent, justement, dans ce festival du jeu de loi que vous avez coordonné pour l'université d'Aix-Marseille.
Bah déjà, merci pour ce petit moment de nostalgie. Ça fait toujours plaisir.
20 ans.
Et puis, ce qui m'a toujours intéressé en histoire, c'est d'étudier la place de l'histoire dans la société contemporaine et comment un certain nombre d'acteurs entrent dans l'espace public, que ce soit les médias, les hommes politiques à travers les commémorations, les panthéonisations, et puis les associations, les individus qui vont s'approprier en fait ce champ de l'histoire par souvent ces formes de reconstitution, ces spectacles historiques. Et effectivement, après avoir travaillé sur le bicentenaire de la Révolution française, sur les représentations de l'histoire révolutionnaire, je m'étais rendu compte à quel point, avec Patrick Garcia d'ailleurs,
qui avait
les
travaillé
individus,
sur le bicentenaire
voilà,
de la Révolution, lui,
ouais, c'est
que...
ça, les individus finalement entraient dans cet espace public, il y avait de véritables pratiques sociales de l'histoire. Et ça, c'est une véritable incorporation des ancêtres, c'est un véritable travail en fait sur le sensuel, sur le vivant, et c'est un rapport à l'histoire extrêmement différent de ce que les historiens connaissaient. Ça m'a toujours passionné. Alors pour répondre à la question, oui, d'une certaine manière, dans ce festival, il y a le 21 juin d'ailleurs au MUCEM, On s'est amusé à étudier la série Game of Thrones, qui a eu un énorme succès. Essayer de comprendre pourquoi ce succès, quelles sont les formes de scénarisation ou de nouveautés finalement qu'elle draine. Et toute une table ronde va suivre cette étude autour de l'actualité du Moyen-Âge. Parce que de toute façon, il y a toujours cette dimension extrêmement intéressante de faire revivre finalement l'histoire dans un temps présent.
Et donc l'idée de ce festival qui est parti pour la première édition dont le temps fort sera donc la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine entre le 19 et le 22 juin à Marseille et à Aix, c'est d'être à cheval sur les deux villes parce que l'université est présente dans les deux villes et de mélanger aussi chercheurs de sciences dures comme on dit, chercheurs de sciences humaines, d'avoir dans les tables rondes des gens autour des thématiques. Il y a des mathématiciens qui participent à la discussion,
un mathématicien. Non, il n'y a pas véritablement de sciences dures. Effectivement, l'université d'Aix-Marseille porte un ensemble de disciplines puisqu'elle a fusionné, elle est sur essentiellement deux sites, Aix et Marseille. Aix est plutôt les sciences humaines et sociales, le droit, l'économie. Marseille regroupe plutôt en fait des disciplines en santé, sciences plus classiques. Pour ce festival, en fait, l'université d'Aix-Marseille a vraiment souhaité donner la parole et rendre visibles ces sciences humaines et sociales. Mmh. Effectivement, il y a un enjeu de société aujourd'hui, c'est-à-dire il faut réussir à faire comprendre au grand public quelles sont les recherches en droit, les recherches en cinéma, les recherches
en géographie,
en économie, en anthropologie. Il y a vraiment un travail de médiation autour de ces disciplines. Et les festivals qui existaient étaient plutôt disciplinaires, étaient souvent portés par des municipalités ou des associations. Et il se trouve que là, l'université a vraiment souhaité donner une place majeure à ces disciplines. Ça n'empêche pas, évidemment, une relation avec des sciences dures. Donc, pourquoi un mathématicien? Tout simplement parce que cette année, la thématique, c'est le jeu, c'est le hasard. Et donc, on a demandé à un mathématicien
de définir
la théorie des probabilités et la théorie des jeux.
Et quand on parle de jeux, on parle parfois aussi de sport. Vous avez des chercheurs et des chercheuses qui sont assez pointus dans ce domaine à l'université d'Aix-Marseille. Donc, on parlera de compétition sportive. Est-ce que le sport est encore un jeu pour pouvoir justement élargir cette notion du jeu le plus vivement possible pour qu'il y ait tout un tas de visions de ce jeu dans la société aujourd'hui, Marie.
Oui, l'idée, c'est cette année, c'est le jeu. Ça sera sûrement un autre thème l'an prochain. Mais l'idée, c'est essayer de croiser une multiplicité de regards sur une thématique donnée et donner de la place à tous. Et surtout permettre à des publics extrêmement différents de s'approprier le festival. Le problème majeur des festivals, il me semble aujourd'hui, c'est le manque de présence des jeunes gens, des étudiants. Et donc, on a par exemple le 21, toute une journée autour du jeu vidéo qui a été organisée avec des étudiants. Et l'idée, c'est véritablement d'essayer aussi de se reconnecter avec la culture d'aujourd'hui, avec des intérêts actuels et ne pas rejeter comme ça, par exemple, le jeu vidéo en considérant que c'est une déconnexion du réel. Il y a mille choses à dire autour du jeu vidéo. Alors le sport, c'est encore un domaine qu'il faut penser certainement autrement. On va travailler par exemple sur les spectacles du jeu, donc les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Évidemment, certainement le sport a été à l'origine d'une revalorisation du jeu dans notre société, si on pense à Coubertin par exemple, qui a redonné une sorte de plus-value et de valeur à l'acte sportif.
Donc c'est donc pendant 4 jours, les 4 jours qui viennent à Marseille et à Aix, il faut insister sur la multiplicité de ces manifestations d'histoire qui se multiplient depuis 3 ans maintenant à Toulouse, il y a l'Histoire à venir où nous étions récemment, il y a aussi tout un tas d'autres manifestations, il y en a d'ailleurs une autre qui se déroulera aussi à Marseille à la rentrée, festival de sciences sociales organisé par l'École des hautes études en sciences sociales. Ça veut donc dire que les chercheurs ont cette volonté de briser les murs des centres de recherche et des universités pour aller rencontrer un public qui n'est pas le leur habituellement, Marilyn Crivello?
C'est certain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rencontre aujourd'hui nécessaire, de toute façon, entre ce monde de la recherche, ce monde de l'université et les publics, mais aussi les musées, mais aussi les associations. Il y a vraiment besoin d'un dispositif, d'un moment, d'un lieu de rencontre pour l'ensemble de ces acteurs. Et dans ce cas-là, je voudrais dire, il y a peut-être une singularité, c'est que pour une fois, effectivement, il y a une institution qui porte les sciences humaines et sociales, qui est soutenue en fait par le ministère et donc qui est parrainée par le ministère, qui est parrainée aussi par l'Alliance nationale des sciences humaines et sociales. Donc il y a un véritable travail à l'échelle nationale pour porter ces disciplines au sein de l'université et sur ce territoire.
Voilà, bien, il y a donc toutes ces manifestations de fin de printemps et de début d'été. Il y aura à la rentrée Saint-Dié, Blois et tout un tas d'autres manifestations, et ainsi que ce festival de l'École des études en sciences sociales à Marseille. On les suivra bien évidemment dans les futures émissions de France Culture. Il y a eu une scénarisation, Marine Crivello est spécialiste de la question des scénarios et de la façon dont on met en scène l'histoire, d'une découverte technique qui sera au cœur, Catherine de Coppé, de votre documentaire qu'on écoutera en tout début de la grille d'été.
Oui, ça sera le lundi 1er juillet à 9h05. Avec Thomas Duterre, on vous racontera comment un petit village des Côtes d'Armor est devenu au début des années 60 le centre névralgique des télécommunications modernes. Il sera question de ballons géants, d'antennes cornet et d'autres bizarreries futuristes. Ça s'appellera Un ballon dans la lande, l'aventure spatiale de Plumeur Baudou.
Et quand je parlais justement de cette scénarisation, c'était une série française qui s'appelait, je crois, Speakerine, l'année dernière, qui a mis en scène justement cette première relation transatlantique par les ondes.
Ce sont l'histoire des premières images télévisuelles qui ont été transmises en direct des États-Unis vers l'Europe par le biais de cette antenne située en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et c'est cette histoire qu'on vous racontera.
Avec Thomas Duterre, donc en tout début de rediffusion d'émissions de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire pendant cette grille d'été. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de témoignages historiques, de redécouverte de témoignages. Et lundi, notre invitée sera Judith Lyon-Camp. Cette émission a été préparée, comme d'habitude, par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Luc Guilhemège était avec nous à la technique. Et un salut tout particulier à Séverine Cassard, qui assure aujourd'hui la dernière émission qu'elle réalise aujourd'hui de la Fabrique de l'Histoire. Et on va avoir pendant 15 jours des larmes qui vont couler avec tous ceux et toutes celles qui ont travaillé depuis maintenant 9 ans pour elle, mais 20 ans pour beaucoup d'entre elles, depuis 20 ans pour la Fabrique de l'Histoire. Merci Séverine.